Bonsoir. Situation sécuritaire au Nord Kivu. Les présidents ougandais Yoweri Museveni, le Rwandais Paul Kagame et le Congolais Joseph Kabila ont exigé hier mercredi à Kampala des rebelles congolais du M23 de se retirer de Goma et de cesser immédiatement leur offensive. De leur côté, les M23 exigent au préalable un dialogue avec le président Joseph Kabila avant tout retrait de Goma. Comment analyser cette situation? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce jeudi 22 novembre 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Jean-Pierre Kambila. Il est conseiller du chef de l'État en charge des questions politiques. Monsieur Kambila, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Professeur Arsène Mouaka, député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Et le professeur Bouendoua Elouga Essi. Il est politologue et professeur à l'ISC Uvira au Sud Kivu. Il est directeur du Centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique de Grand Lac. La réalisation me signale qu'il n'est pas encore en ligne. Il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Merci à vous, chers auditeurs, parce que vous êtes déjà très, très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Junior Kasirika Kasongo de Kisangani, en province orientale. La plus grande question n'est pas celle de savoir comment les M23 va se retirer de la ville de Goma, mais celle de savoir par où les M23 va se retirer. Est-ce à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire national? Christian Kalinde, depuis le Gabon, en se retirant de Goma, quel sera le sort de la population dans les endroits où ils vont se retirer? Et quelle est la différence d'avoir les M23 à Goma ou à Rutshuru ou encore à Kibumba si c'est toujours sur le sol congolais? Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les présidents ougandais Yoweri Museveni, le Rwandais Paul Kagame et Joseph Kabila de la RDC ont exigé hier mercredi à Kampala des rebelles congolais du M23 qu'ils se retirent de Goma dont ils se sont emparés mardi. Le M23 doit cesser immédiatement son offensive et se retirer de Goma, ont déclaré dans un communiqué commun les trois chefs d'État qui se sont réunis depuis mardi soir en Ouganda. Plus d'explications avec vous, Lievin Bwinga.
Ce communiqué, lu en présence de trois chefs d'État par le ministre ougandais des Affaires étrangères, souligne qu'un plan est en train d'être transmis au M23 pour permettre aux rebelles de quitter Goma. Où qu'ils soient, nous leur disons de faire demi-tour et je peux vous assurer qu'ils vont le faire, a ajouté le président ougandais Museveni à la presse après lecture du communiqué. De son côté, le président Paul Kagame a déclaré aux journalistes que le fait même qu'il soit à Kampala montre sa volonté de contribuer à trouver une solution aux problèmes de l'Est de la RDC. Les présidents Museveni et Kagame ont ajouté que même s'il existe des revendications légitimes de la part du groupe M23, ils ne peuvent accepter l'extension de cette guerre ou accepter l'idée d'un renversement du gouvernement légitime de la RDC ou d'un affaiblissement de son autorité, explique le communiqué. Le gouvernement de la RDC, de son côté, a pris l'engagement de rechercher promptement les causes des désordres et d'y remédier du mieux qu'il peut, ajoute le communiqué final. Enfin, Kabila a souligné que tout nouveau contact entre le gouvernement et le M23 sera basé sur le rapport d'évaluation de l'accord de 2009 rédigé par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
Merci Lievin Bwinga. Jean-Pierre Kambila, je rappelle que vous êtes conseiller du chef de l'État en charge des questions politiques. Quelle analyse vous faites de cette déclaration des trois présidents ougandais, rwandais et congolais?
J'aimerais d'abord souligner que je suis avant tout citoyen congolais et que j'aime mon pays. L'analyse que je fais de ce communiqué, c'est que j'attends les résultats, comme tous les Congolais. Nous voulons que les rebelles du M23 et leurs complices étrangers, parce qu'il y en a, quittent notre sol, le sol de nos ancêtres, qu'ils ne se fassent aucune illusion. Le temps du mépris doit se terminer. Les Congolais ne sont pas des lâches, ils se battront jusqu'à la dernière goutte de leur sang. Les M23 doivent partir. Ils doivent quitter notre pays. Parce que pour la plupart des gens qui composent ce groupe, ils ne sont pas des Congolais. Ils ont fait le choix délibéré d'une autre nation, c'est leur droit. Alors, il faut qu'ils quittent notre pays.
Alors, leur réaction ne s'est pas fait attendre. Ils ont dit qu'avant de quitter Goma, il faut qu'ils rencontrent le président Joseph Kabila.
Écoutez, nous sommes un pays démocratique. Il y a des voix pour s'exprimer lorsqu'on n'est pas content. Nous avons un parlement, nous avons une presse qui est libre, nous avons les associations qui peuvent s'exprimer, les ONG, il y a tout dans ce pays. On peut revendiquer des choses, on peut le dire, mais c'est pas par les armes. L'époque de la prime à la violence, de la prime aux morts, doit s'arrêter. On ne peut pas rester dans cette logique-là. Trop, c'est trop. L'Est de notre pays a trop souffert. Il faut que ces gens-là prennent conscience que ça ne sert à rien, pendant des décennies maintenant, d'installer la haine dans les populations qui n'en avaient pas, parmi les gens qui vivaient ensemble pendant des très longues décennies. Maintenant, à cause des mauvais choix, nous venons de passer plus d'une décennie à cultiver la haine, alors que ces gens-là vivaient avant. Alors, maintenant, je crois qu'il faut arrêter cette affaire-là.
Pour vous, le président Joseph Kabila doit les rencontrer ou pas?
Écoutez, toute guerre, tout conflit, quel qu'il soit, finit toujours autour d'une table. Ça, c'est une règle de l'histoire, qu'on ne changera pas, qu'on le veuille ou non. Mais ça dépend, quelles sont les conditions autour desquelles nous serons sous la table. Il y a eu un accord, l'accord du 23 mars. Il faut l'évaluer et voir. Si le gouvernement a péché ou a été un peu lent sur tel autre point, il faut régler ces affaires-là. Mais c'est pas comme ça qu'on va régler ça. Pourquoi autant de morts? Tous ces enfants qui ont perdu leur vie, tous ces enfants qui ne peuvent plus aller à l'école, toutes ces femmes que l'on viole, c'est pas des êtres humains. Comment est-ce qu'on peut tolérer ce genre de choses?
Alors vous parlez des négociés aujourd'hui, alors qu'il y a quelque temps, le gouvernement congolais disait qu'il allait négocier avec le Rwanda et pas avec le M23. Et aujourd'hui, ce même gouvernement est prêt à négocier avec le M23?
Non, je crois que vous avez certainement lu le texte du communiqué final. Si vous voulez, je peux vous le lire. Le gouvernement de la RDC s'est engagé, pour sa part, à examiner sans tarder, donc le plus vite possible, les causes du mécontentement et à y répondre dans la mesure du possible. C'est clair et net.
Mais ce sont les revendications du M23, pas du Rwanda.
Madame, tout le monde en République du Congo sait que le M23 n'existe pas. Le M23, c'est l'avant-garde du projet rwandais d'annexer une partie de notre pays. Et ça, ce projet a échoué. Et il ne réussira pas. Même si, pendant quelques jours, pendant quelques mois, même pendant quelques années, ils occupent une partie de notre pays, ils finiront par sortir. Parce que nous le ferons sortir. Toutes les ethnies du Congo, toutes, je dis bien toutes, même les Tutsis rwandais, congolais, ne l'accepteront pas. Ils n'accepteront pas qu'un pouvoir étranger vienne nous dicter ici ce qu'il faut faire ou qu'une puissance étrangère vienne prendre une partie de notre pays. Patrice Lumumba n'est pas mort pour rien, Moïse Leron, Désiré Kabila non plus. Donc, nous sommes d'accord de discuter en fonction de l'accord qui a déjà été signé. C'est ça que nous allons examiner. Et dans la mesure du possible, on va essayer de régler ça. Mais qu'on se fasse pas d'illusions. Les Congolais ne sont pas des lâches. Ils se battront. C'est pas parce qu'on a perdu une bataille que les gens doivent penser qu'ils peuvent marcher sur ce pays. C'est pas vrai.
Alors on va prendre pour vous, Monsieur Kabila, cette réaction de Sengi de Kalima Omanema.
Sengi Kalim de Kalima Omanema. Je voudrais que les membres de la majorité m'expliquent pourquoi, après la chute de Goma, le président de la République est allé voir ou rencontrer Museveni et Kagame parmi tant d'autres pays voisins de la RDC. N'est-ce pas là une confirmation de leur soutien au M23?
Réaction.
Ben, je crois que dans la vie, il ne faut pas se fier aux apparences, hein, parce que ça, ce n'est qu'une apparence. La réalité est que cette rencontre de la CIRGL était prévue de longue date, et que même lorsque vous vous battez, la diplomatie doit continuer. Parce que la diplomatie, c'est aussi la guerre.
Est-ce que le président est obligé d'y aller, parce qu'il y avait déjà une ville de son pays qui venait de tomber aux mains des rebelles?
Mais je viens de vous dire, madame, que la diplomatie, c'est aussi la guerre. La démarche de son excellence le président de la République là-bas, contribue à la guerre. La preuve, c'est que si grâce à cette démarche-là, le M23 quitte la ville de Goma, nous aurions gagné.
Mais pourquoi les présidents des autres pays n'ont pas été associés?
Le président de quel pays?
Des autres pays qui constituent la CIRGL n'ont pas été associés. La CIRGL n'est pas composée seulement de la RDC, de l'Ouganda ou du Rwanda.
Bien, c'était une réunion prévue comme ça, parce que c'était une réunion considérée comme étant, entre guillemets, celle d'une des dernières chances. Il fallait que les trois présidents de la République se rencontrent et discutent face à face, que chacun prenne ses responsabilités.
Merci Monsieur Kambila. Professeur Arsène Mouaka, je rappelle que vous êtes député national de l'opposition et cadre du parti politique DCFN. Quelle est votre lecture de la déclaration de ces trois présidents, Museveni, Kagame et Kabila?
Oui, je crois que ce qui est en train de se passer une fois de plus n'est pas nouveau. Je dirais que c'est une histoire qui se répète. Ce qui est très curieux, c'est que cette histoire se répète dans le même terme. Et donc, on se rappelle de 97, on se rappelle de 98, on se rappelle de 2004. Et donc, rien n'est nouveau systématiquement dans ce qui est en train de se passer. La formule, elle est la même. Un groupe d'insurgés qui prennent un village et puis finalement, ils sont repoussés, ils résistent tout petit peu. Et puis finalement, l'armée arrive à les conjurer tout petit peu. Ils se retirent dans une petite brousse. Finalement, ils reviennent. Et après, c'est le Rwanda et ainsi de suite. Et donc, finalement, c'est une ville, une deuxième. Et puis, il faut parler. Et donc, on y est. C'est pas nouveau. Et moi, je suis assez pessimiste. Je crois que quand on a essayé une formule et qu'on voit que cette formule ne porte pas, il faut la changer. Il faut procéder autrement. Nous ne sommes pas en train d'inventer un État. L'État a été inventé il y a très longtemps. Et ceux qui ont inventé l'État ont doté l'État d'un corps spécialisé et organisé, chargé de défendre un État. On sait, et cela est classique, que quand un État voisin vous attaque, vous devez vous défendre. C'est pour ça que l'armée a été instituée. Et donc, c'est le sérieux, il faut le mettre à ce niveau. Pourtant, tout le monde sait que Goma est tombé très facilement. Et je semble croire que ceux qui ont été sur le front avec notre armée nous démontrent que l'armée a disparu. Et donc, cela dénote d'une mauvaise gouvernance dénoncée depuis bien longtemps au Parlement. Nous avons eu à plusieurs reprises à dire que nous étions en train d'aller dans un cul-de-sac et que nous nous entêtions comme les autres se sont entêtés pendant des années et qu'on allait mettre le pays en difficulté. Nous y sommes. Nous avons vu le chef de l'État. Il nous a raconté ce qu'il pouvait nous raconter sur l'Est, en responsabilisant les ressortissants, en prophétisant que le pays pouvait marcher sans le Nord Kivu, ainsi de suite. Je crois que sa prophétie s'est réalisée. Et donc, il y a là une irresponsabilité notoire et une fois encore, une distraction. Nous avons encore recommencé les négociations. On nous informe en anglais que le président a tout accepté. Il a accepté quoi? Cette fois-là, je crois qu'on doit nous dire très clairement qu'est-ce qu'on est en train de négocier, qu'est-ce qu'on a accepté totalement, qu'est-ce qu'on veut accepter dans cet accord à 10 ans que s'il y a des revendications du M23 qu'on voudrait accepter. Je crois qu'on doit nous dire très clairement, puisque depuis un certain temps, on a constaté que la scène politique se vide des Congolais qui réfléchissent. Si vous voulez réfléchir sur cette question des Grands Lacs, on vous fout dehors. Nous connaissons l'exemple de Kamere, qui a été un grand dans la majorité présidentielle. Mais il a osé réfléchir. On l'a foutu dehors, ainsi de suite. Et dans le sens inverse, on voit la majorité être investie par des corps étrangers. Et ils investissent la majorité et tous les criminels portent des écharpes du PPRD et alliés. Et donc, je crois qu'il est inacceptable. Ces jeux-là doivent être réellement dénoncés et nous travaillerons pour dire à la population congolaise qu'il se passe des choses inacceptables. On n'acceptera pas que quelqu'un aille signer en anglais n'importe quoi.
Et vous pensez que cette déclaration n'aura pas d'effet sur le terrain?
En tout cas, ce que je sais, c'est qu'un pays, le Rwanda et l'Ouganda, mais nous connaissons leur principe, c'est fight and talking, c'est-à-dire se battre et négocier. Quand ils viennent de faire un grand coup, ils négocient fortement. Et il faut croire qu'il y aura des choses. C'est leur stratégie, ce n'est pas nouveau, ça s'est répété en 97, en 98, et ainsi de suite, c'est du connu. Et donc aujourd'hui, ils sortent le grand anglais pour nous dire qu'ils sont très sûrs qu'ils vont se retirer, et ainsi de suite, mais c'est pas nouveau. C'est du connu. Ils vont continuer à avancer. Et donc, je crois que la seule chose que nous pouvons faire, c'est de pouvoir organiser notre armée, poser des questions à notre armée. On a dit pendant très longtemps que notre armée était infiltrée, que la chaîne de commandement était incapable. En fait, si on ne change pas la chaîne de commandement, ça signifie que cette chaîne de commandement fait du beau travail. Ce beau travail, c'est faire tomber nos villes. Alors nous sommes dirigés par qui?
Alors le M23 exige un dialogue avec le président Kabila avant de se retirer de Goma. Est-ce qu'on peut se dire que c'est une façon de bloquer aussi les négociations?
Moi, je ne suis pas un vétéran en guerre, mais tout ce que je sais, c'est que aussi longtemps qu'on ne se bat pas correctement, les négociations sont inutiles puisqu'on va signer des trucs qu'on ne va pas respecter. Et à quoi bon nous remettre à chaque fois au point de départ? La formule là, elle est connue, on signe tout, on accepte tout et on ne respecte rien. Et le lendemain, ça va être le M58 et si de suite, c'est inaccepté, c'est quand même un jeu d'enfant.
Alors professeur, il y a cet auditeur de Butembo Nord Kivu, Junior Thomas, qui dit ceci: négocier sur quels critères? Si l'on accepte de négocier avec le M23, il ne faut pas oublier qu'il y a des groupes armés dans le Nord Kivu, en province orientale, au Katanga, au Kasai. Il ne faut pas privilégier le M23, cela pousserait d'autres groupes armés à faire du bruit pour négocier encore. Il faut que le gouvernement appelle tous les rebelles de la RDC pour un cessez-le-feu, ou dans les cas contraires, l'idée de tous les Congolais, soit on les traque jusqu'au dernier. C'est au Parlement congolais de répondre à la question. Donc c'est à vous, parlementaires, de booster un peu.
Absolument, nous sommes en train de faire notre travail. Nous attendons de ceux qui gèrent ces pays de nous dire clairement ce qui s'est passé à Goma. Pourquoi, depuis qu'on a pris Rutshuru, ils ne se sont pas comportés comme ils se comportent maintenant, puisque maintenant on les voit s'agiter ainsi de suite. Cela signifie que quand il y a une localité rurale qui tombe, ça ne leur dit rien. C'est seulement quand une grande ville tombe, stratégique, qui menace leur pouvoir, qu'ils deviennent sérieux. Et donc, c'est quand même inacceptable. Et donc, je ne suis pas de ceux qui pensent absolument que la négociation, elle est urgente, dès lors que nous ne nous battons nulle part. Si nous nous battons correctement, je crois que nous pouvons négocier. Mais il y a aussi des guerres qui se terminent sans négociation, au bout dehors l'ennemi. Et donc, je suis désolé que le conseil politique du chef de l'État dise que toutes les guerres se terminent autour d'une table. C'est une mauvaise formule qu'il donne au président. Il doit dire au président que l'ennemi doit être retourné d'où il est venu.
Merci, professeur Arsène Mouaka. La réalisation me signale que le professeur Bouendoua est en ligne. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, madame. Bonsoir.
Alors, je rappelle que vous êtes politologue et professeur à l'IEC Uvira au Sud Kivu. Vous êtes également directeur du Centre des recherches et d'études sur l'Afrique orientale et l'Afrique des Grands Lacs. Quelle est votre analyse sur la déclaration de Kampala?
Bon, je vais d'abord saluer le conseiller du chef de l'État, l'honorable. Je comprends très bien ce qu'ils disent, mais moi, sur la question de la déclaration de Kampala, j'allais d'abord dire que, en s'y rendant, le président de la République a donné presque l'impression d'aller à Canossa, presque l'impression de prendre le chemin de Damas, presque vraiment l'impression d'accepter de passer sur les fourches communes. Et dans ces conditions-là, négocier est quelque chose d'assez pénible, je pense, pour le chef de l'État. Mais quoi qu'il en soit, quand on a en train de négocier entre les cousins, c'est-à-dire entre le Rwanda et l'Ouganda, et en se méfiant de son voisin et le gars, on arrive, comment dirais-je, un peu à ne pas comprendre les enjeux du moment. Mais je dirais tout simplement que ce qui nous fait défaut pour le moment, c'est que notre pays ignore tout de sa géographie et donc de sa politique. Le comportement que nous avons à l'égard du Rwanda, à l'égard de l'Ouganda, c'est qu'on a avalé des couleuvres pendant très longtemps, on a accepté l'inacceptable, on va donc vraiment tous les jours de manière un peu répétitive se soumettre et à la limite se mettre dans tout. Et cela est totalement inacceptable, mais bon, ben, c'est nos voisins, nous allons composer avec eux, mais composer avec les forces du mal me paraît aussi un peu mauvais. Mais bon, ben, je n'aurai pas beaucoup de choses à dire, parce que je ne suis pas ni aux affaires, ni commentant de manière très directe les choses, mais je pense que notre diplomatie, ou bien à la limite le rôle qu'aurait pu jouer la compagnie, parce que je ne comprends pas pourquoi nous ne nous appuyons pas quand même sur d'autres leviers, pour
contourner la question d'être face à face toujours seulement avec le Rwanda et l'Ouganda. Le chef de l'État connaît très bien la Tanzanie, connaît sa force, comment la Tanzanie avait réglé la question ougandaise sous Idi Amin, et je pense que ça pourrait nous servir un tout petit peu de, comment dirais-je, de schéma ou bien d'archétype pour
Alors, professeur, que pensez-vous de la réaction du M23 qui exige de dialoguer avec le président Kabila avant de quitter Goma?
Le M23 fait de la surenchère. Ils sont en bonne situation. Un petit groupe armé par l'ennemi arrive à défaire une armée à la limite qui aurait dû depuis très longtemps. Mais, donc, je pense qu'ils sont en train de surfer sur la vague rwandaise, la vague qui connaît un flux, le Rwanda qui connaît un flux économique, un flux politique, mais une stagnation idéologique du fait d'avoir perdu tout simplement cette arme fatale, cette sorte de, comment dirais-je, ce qui leur servait des questions intellectuelles sur la question du génocide. Actuellement, en fait, je pense qu'ils profitent, les gens du M23, du vide absolu où on se retrouve, où les gens sont en train de lutter dans cette frontière de l'Est. Ils ne savent pas à quel sens ils vont. Et donc, du coup, moi, je pense qu'en faisant de la surenchère, ils savent très bien qu'ils sont protégés derrière par deux États qui nous ont fait du mal pendant 20 ans maintenant. Alors, je pense que bon, la surenchère va durer aussi longtemps qu'on acceptera de s'asseoir sur les tables.
On va prendre pour vous, professeur, cette réaction, cette autre réaction qui nous vient toujours de Kalima au Maniema. Et cette fois-ci, c'est Augustin Mwango.
Augustin Mwango, depuis Kalima dans la province du Maniema, nous en avons assez avec des appels, rapports et condamnations adressés en vain au M23, car si les activités de ces mouvements ne dépendaient que de cela, on n'en serait pas au niveau où l'on en est aujourd'hui. Et puis, je suggère à nos dirigeants de dialoguer avec le M23 et tous les autres groupes armés actifs en République démocratique du Congo, car, qu'on les reconnaisse ou pas, il y a d'abord une sérieuse crise sociopolitique à l'intérieur du pays, sans compter d'abord celle liée à la légitimité des gens actuels, et si l'on privilégie l'option militaire, ce sont les populations civiles congolaises qui en paieront toujours les prix pendant que les Rwanda et l'Ouganda resteront dans la paix. Peut-on me dire si ce sont ces deux pays qui sont aussi derrière tous les autres groupes armés actifs actuellement en République démocratique du Congo?
Professeur, votre réaction?
Ma réaction, elle est un tout petit peu de ce genre. Je considère notre pays comme un vrai géant géographique, un nain économique et un géant politique. Et dans ce sujet-là, quand nous allons négocier, c'est vrai, nous prenons l'impression d'être capillaires, pour ainsi dire. Parce que nous n'arrivons pas à peser dans le poids qui pourrait effrayer nos voisins. Je pense à une sorte de serpent dans les milieux qu'on connaît ici chez les Bafouliers ou qu'on appelle les Tikangabalini. C'est-à-dire que nous, quand on se présente sur des tables de négociation, on sait très bien que nous, c'est pas consistant. Et c'est peut-être cela qui me chagrine, et je comprends que mon compatriote, dans une analyse, puisse bien nous en arriver à cela. C'est que, grosso modo, d'une manière ou d'une autre, notre pays n'a plus d'appareil idéologique d'État. C'est-à-dire que les gens endroit où les think tanks se mettent en commun pour réfléchir sur notre pays n'existe pas. On n'a plus d'appareil répressif d'État. Les deux conjugués, c'est-à-dire notre armée, notre police, nos services de sécurité, ne fonctionnent pas. Nous allons de réunion en réunion sans avoir des moyens de pouvoir peser d'une manière ou d'une autre parce que notre pays, apparemment, ne réfléchit pas assez sur sa géographie pour fonder à partir de sa géographie sa politique et sa géopolitique. Et là, je pense que, bon, si longtemps que nous resterons en train de nous faire berner par nos voisins, je dirais cette vieille formule qu'on apprenait en latin, quid idem petit neo danaos et dona ferrantes. On a peur des Rwandais, des Ougandais, même quand ils donnent des cadeaux en nous disant que bon ben demain le M23 va quitter. Et c'est peut-être là, moi mon analyse irait dans le sens de renforcer l'État dans ses appareils idéologiques et dans ses appareils répressifs.
Merci professeur Bouendoua. Choix. Nous venons de l'apprendre, le général Amissi Tangofort vient d'être suspendu de toutes ses fonctions au sein de l'armée. Il est accusé de vendre des armes aux groupes armés dans l'est de la RDC. Et pour le moment, il est suspendu pour raison d'enquête. Jean-Pierre Kambila, conseiller du chef de l'État en charge des questions politiques, est-ce qu'on peut dire que les institutions de la République en fait, il y avait des complices au sein des institutions de la République avec cette suspension du général Amissi Tangofort?
Ben, je crois que le général a été suspendu pour raison d'enquête. Nous sommes devant des affaires très graves. Il faut garder son calme et attendre l'enquête. Il faut garder son calme, c'est tout.
Alors les auditeurs sont très nombreux, très très nombreux à nous envoyer leurs réactions par rapport au thème de ce soir. C'est le cas de Siro Chico de Lubero au Nord Kivu. De cette déclaration, à mon avis, il faut retenir deux choses. Une complaisance de la part des chefs d'État ougandais et rwandais et un irréalisme de la part du chef de l'État congolais, car en RDC, les dirigeants politiques congolais ont minimisé le problème juste au début, alors que de l'autre côté, donc en Ouganda et au Rwanda, ils ont pris le problème au sérieux. Ce n'est pas en position de faiblesse que la RDC doit chercher une solution diplomatique ou politique. Jean-Pierre Kambila.
Non, vous voyez, nous sommes devant une situation excessivement grave. Et je pense que face à ce genre de situation, ce n'est ni l'émotion, ni la haine qui doit nous animer. Parce que et l'émotion et la haine aveuglent. Lorsque j'entends le professeur et le député dire que tous les criminels de la République portent les écharpes du PPRD et alliés, je ne vois pas ce que ça vient faire dans un débat où nous sommes en train de discuter d'une guerre qui a lieu dans notre pays. Donc j'aimerais demander un peu plus de calme si c'est possible. Aujourd'hui, au moment où nous parlons là, maintenant, à Radio Okapi, sur place, nos enfants sont en train de se battre. Et ils ne se battent pas tout seuls. Ils se battent parce qu'il y a un commandement. Ils se battent parce qu'il y a un état-major. Ils se battent. La guerre n'est pas finie parce que les présidents ont fait un communiqué. Lorsqu'on dit, ah, les autres, ils sont spécialistes de talk and fight et vous, vous dormez. On dort pas. On a parlé. On se bat. Il faut qu'on arrête de minimiser les Congolais, de s'auto-détruire. Vous voyez, le discours extrémiste, juste pour plaire, je ne pense pas qu'il apporte des fruits. Aujourd'hui, il faut être calme, mais déterminé.
Alors, le président est allé en Ouganda. Bon, il a fait des concessions là-bas avec le président ougandais.
Lesquelles concessions il a fait? Lesquelles?
Ils ont signé ensemble un communiqué final. Ouais. Il a promis de revoir les accords du 23 mars. Oui. Peut-être qu'on nous a pas tout dit.
Pourquoi peut-être qu'on vous a pas tout dit? Pourquoi mettre dans la tête des Congolais que le Congolais, que les représentants du Congo sont toujours à leur cacher
des choses? Pourquoi le président n'est pas passé par les institutions de la République, c'est-à-dire les gouvernements ou le Parlement, oui, avant de se rendre en Ouganda?
Madame, nous sommes en guerre. Et en guerre, le président de la République
est le garant. On ignore les institutions de la République lorsqu'on est en guerre.
Mais le président de la République, c'est une institution, chère madame. La constitution de la République démocratique du Congo, elle fixe bien que le président, il est le garant de la nation. Il a les compétences constitutionnelles. Il n'est pas parti là-bas parce qu'il a voulu y aller. Il est parti là-bas parce que la situation du Congo l'exigeait. Il est parti et il est revenu avec ce qui pourrait, si ça aboutissait, devenir une solution. On n'en sait rien parce que autour de cette table et ailleurs, en dehors de Dieu le Père, personne ne peut prévoir l'avenir. Mais il y a un pas qui a été fait à Kampala, il y a une décision qui a été prise, on verra bien ce que ça a été donné. Mais ça, c'est pas pour ça que nos enfants ont arrêté de se battre.
Merci Jean-Pierre Kambila, je vais vous redonner la parole. Professeur Arsène Mwaka, votre réaction par rapport à la suspension du général Amissi Tangofort?
Nous sommes parmi ceux qui ont demandé, il y a plus d'une année, le départ de cet officier qui s'illustrait beaucoup plus sur le terrain de football que sur le terrain de combat. C'est depuis très longtemps, on a dit, ce bilan, si il concerne le Congo, En tout cas, il faut peut-être les voir à l'envers pour dire que ces bilans est positif. À d'autres termes, croire qu'il travaille pour une puissance étrangère qui gagne toujours au Congo par lui pour le maintenir au pouvoir. Et pendant très longtemps, on nous a dit que nous étions tribalistes. Je suis député du Nord Kivu, je suis élu au Nord Kivu à Beni. Et nous avons été à Kingakati. Le président nous a reçus. Nous avons demandé le départ de cet officier. Je crois que nous devons être sérieux. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un rapport des Nations Unies, écrit par des Blancs peut-être, pour qu'on comprenne finalement que cet officier n'était pas à sa place? Et donc, je crois que c'est une réaction tardive. Les dégâts sont déjà là. Nous, nous passons à une autre étape, c'est l'étape des comptes. On doit rendre compte. Qui a fait quoi? Qui a permis à cet officier de faire des ravages? Et je semble croire que si des enquêtes sont menées, on doit mener aussi des enquêtes sur sa richesse. On peut acheter un joueur de 100 000 dollars quand on est général de l'armée congolaise, qui est réputé n'est pas bien payé. L'argent vient d'où? Je crois que s'il y a l'enquête pour ce qui est de la vente des armes, on doit mener l'enquête aussi sur l'enrichissement rapide de cet officier. Et je semble croire que la majorité sera sérieuse, sinon je suis opposant. Je ne ferai que demander des comptes. Et donc, si j'ai dit qu'il y a des criminels qui sont en écharpe, c'est juste pour dire que le CNDP et tout le reste. Mais ces gens-là sont de la majorité présidentielle, ils n'ont jamais été chassés. Et ils sont nombreux dedans. Plusieurs fois, on a donné des noms pour dire voici, et j'espère qu'il y aura encore d'autres ravages pour que finalement, les gens se rendent à l'évidence. Mais quelle est cette manière de gérer le pays qui consiste à constater les dégâts et à vouloir faire plus ou moins du colmatage? Je crois qu'on doit savoir anticiper.
Alors, vous êtes un député national. Est-ce que le Parlement a été consulté par le chef de l'État avant de s'envoler pour Kampala?
Mais nous, le Parlement, nous considérons que nous ne sommes pas en guerre. J'ai entendu le conseil politique dire que nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre, puisque la Constitution donne la formule. Quand il y a guerre, la guerre, ça se déclare. Et il y a une formule pour déclarer la guerre. Ça signifie la vie du bureau du Parlement, du Sénat, compte aussi. Ça n'a jamais été déclenché, même pas l'état d'urgence, même pas quoi que ce soit. Pour le gouvernement, tout ce qui se passe est normal. Hein? Tout ce qui se passe est normal, on n'est pas en guerre. Et par conséquent, le Parlement est même empêché d'en discuter. À chaque fois que nous voulons en discuter, non seulement qu'on nous empêche des paroles, mais si on en parle, alors on doit couper même le micro pour que, en fait, on doit couper le signal pour que la population ne puisse pas suivre comment nous en débattons. C'est anormal.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Entre-temps, à New York, le Conseil de sécurité des Nations Unies réuni a condamné les activités du M23 et exige le retrait de ses mouvements, de ses positions et l'arrêt des violences contre les civils. Le Conseil de sécurité s'est réuni hier, mercredi, à New York, pour entendre Roger Miss, le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de paix s'est adressé aux journalistes dans un point de presse au siège des Nations Unies à New York après une réunion à huis clos du Conseil. Hervé Lassou résume ici l'essentiel de cette réunion au micro de Jean-Pierre Ramazani.
Je crois que ce qu'il faut en retenir, c'est trois éléments. Un, condamnation absolue des activités du M23 et exigence d'un retrait du M23 sur les positions qui étaient les siennes avant le cessez-le-feu de facto qui a surgi cet été, donc ça veut dire retour à Rutshuru. Deux, arrêt des violences contre les civils. Tout ceci a engendré beaucoup de déplacés supplémentaires, beaucoup de souffrances, et il est clair que ceux qui sont responsables de ces souffrances devront en rendre compte. Troisièmement, la MONUSCO. La MONUSCO, elle reste. Elle ne peut pas, de facto, appliquer la partie de son mandat qui concerne le soutien aux forces armées congolaises, puisque les forces armées congolaises ne sont plus présentes dans la zone considérée.
Alors, c'était la Hervé Latsou, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux opérations de maintien de paix. Professeur Bouendoua, le Conseil de sécurité aborde un peu dans le même sens que les trois chefs d'État, Yoweri Museveni, Kagame et Joseph Kabila. Est-ce que ces déclarations peuvent avoir un impact sur l'évolution de la situation dans le Nord Kivu?
je pense, d'ailleurs, j'entre un peu dans le sens de ce que disait le conseiller du chef de l'État, M. Jean-Pierre Kabila. Le problème, c'est que nous sommes là, réellement, avec les trois chefs d'État, avec un peu de bonne volonté des parts et d'autres, avec des peuples qui se chevauchent, qui se côtoient, qui vivent ensemble la même vie économique, culturelle et tout. Je pense que les chefs d'État, les trois chefs d'État, ont vraiment une chance historique de nous amener dans des conditions réelles et vraies à aménager une paix qui soit durable. On doit toujours espérer la paix et non pas penser forcément à une simple éternelle guerre. Mais je ne sais pas, en fait, assez souvent, on s'est dit beaucoup de choses qu'on n'a pas réalisées et nous nous retrouvons non pas dans un marché de dupes. Mais je pense que l'histoire pourrait faire payer très cher encore une paix ratée parce que tout le monde miserait beaucoup plutôt sur la paix et non pas sur la guerre. Bon, les éléments du M23 qui sont là, bon, c'est les enfants quand même d'ici, de là-bas. Ici, nous vivons une zone, je pense que, vu des questions, ça n'apparaît pas clairement, mais en fait, les gens ici se soutiennent, se contiennent dans des situations telles que on ne pourrait pas démêler les uns des autres. Et je pense que l'idéal serait d'arriver à faire comprendre aux uns et aux autres que on n'a pas forcément à vivre une sempiternelle guerre ou bien des situations les plus conflictuelles parce que culturellement, politiquement, économiquement, les choses s'imbriquent et s'impliquent ici.
Professeur, les auditeurs nous écrivent, c'est le cas de l'honorable Odane Doune pour l'un d'eux qui s'est engagé en province orientale. Il dit ceci, la déclaration de Kampala a été un coup d'épée dans l'eau. Il me semble que le gouvernement congolais n'arrive pas à maîtriser les manœuvres du président rwandais et celui de l'Ouganda. Et Boni devient en Autriche, la demande de ses trois chefs d'État est une moquerie vis-à-vis du peuple congolais. Comment peuvent-ils le dire alors que tout le monde sait que le Rwanda et l'Ouganda sont dans ce coup avec une rame de complicité interne au niveau de l'exécutif national? Le gouvernement congolais doit d'abord bien informer son peuple de ce qui se passe à l'Est. Jules de Kinshasa, le communiqué final du ministre extraordinaire de la CIRGL n'est pas réaliste, ce n'est qu'une simple diversion. On constate que les Congolais sont quand même assez sceptiques ou pessimistes par rapport à la déclaration de ces trois chefs d'État, professeur Bouendoua.
Oui, je pense, je le redis encore, c'est notre faiblesse des Congolais qui fait la force des Rwandais et des Ougandais. Aussi longtemps que nous serons en mesure de vraiment tenir tête idéologiquement et répressivement, nous pourrons y arriver. Mais aussi longtemps que la guerre se déroulant, on donne l'impression qu'elle ne se passe qu'à l'Est et que la nation tout entière n'est pas considérée, nous serons dans cette situation. On pense que c'est une guerre d'une partie de la République, à la limite à côté du Rwanda et de l'Ouganda et du Burundi. Mais je pense sincèrement que plus nous nous renforcerons, plus les choses iront mieux. C'est pour cela que réformer, retravailler l'armée, et réformer, retravailler l'université, les appareils que j'appelle, si c'est pas moi qui les appelle, c'est l'UL Tusser, les appareils idéologiques et les appareils répressifs, ils arriveront très bien à contenir toutes les agressions de quelque nature qu'elles soient et quelles que soient les personnes armées pour nous faire mal.
Merci professeur Jean-Pierre Kambila. Réaction par rapport à la déclaration du secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien des paix.
Bon, je crois qu'il n'y a aucune nouveauté.
Est-ce que ça aura un impact sur l'évolution de la situation, sur les dénouements
certainement,
des problèmes?
Certainement. Moi, je ne m'enferme pas dans le doute. Comme je le vois bien souvent chez nous. Vous voyez, le professeur ici a parlé d'appareil idéologique. Il y a une idéologie dangereuse chez nous, en République démocratique du Congo. Nous pensons que nous pouvons vivre enfermés dans des convictions qui sont peut-être, je dirais, même pas enfermées, mais carrément incrustées comme dans une pierre. La vie, c'est un mouvement, ça évolue. On tient compte de l'opinion de l'autre. On s'ouvre aussi à l'autre. On discute et on avance. Si, dès que le président de la République démocratique du Congo, garant de la nation, de par la Constitution, va discuter quelque part, à la sortie, tout le monde est dans le doute. Enfin, tout le monde. Certains, c'est faire preuve d'une idéologie qui privilégie en toute chose l'extrémisme. C'est pas possible. Nous devons être ouverts. Il y a un minimum de confiance qu'il y a. Si on fait preuve d'autant de doutes que j'en entends aujourd'hui de la part de l'honorable Mweka, je ne comprends plus rien et je pense qu'il n'y aura jamais de solution. Pourquoi ? Parce que je sens qu'on est toujours dans une situation du tout ou rien. Il faut absolument tout. C'est pas possible. Cette vie-là n'existe pas. On vit dans une vie où on doit essayer de comprendre ce que dit l'autre, sans se nier soi-même, sans s'humilier soi-même. Et c'est comme ça qu'on ouvrira la porte à ce que l'autre nous écoute aussi. Si nous pensons que pour vivre, l'autre doit absolument disparaître, il n'y a pas d'avenir. Voilà pourquoi je dis que lorsque le professeur ici parle d'appareil idéologique d'État, il a raison. Nous devons avoir un appareil idéologique. Nous devons réfléchir sur ce que nous voulons être. Et nous, ce que nous voulons être au Congo, c'est une nation qui est une nation ouverte, au dialogue, qui accepte tous ceux qui veulent être congolais et respecter les lois de la République démocratique du Congo.
Merci Jean-Pierre Kambila. Honorable Arsène Mweka, quel impact pourra avoir cette déclaration du secrétaire général adjoint de la Nations Unies chargé des opérations de maintien de paix?
Oui, je crois que les Nations Unies savent ce que le peuple congolais veut. Le peuple congolais veut attendre parler du chapitre 7. Maintenant, ce qui est dit est très bien. C'est encore des phrases sur d'autres. Mais ce qu'on voudrait voir, c'est que quelque part, notre pays soit appuyé en conséquence, ainsi qu'on est en train de le voir dans d'autres États. Et donc, le souhait, c'est celui-là. Maintenant, tout ce qu'il a dit, c'est bon. Je n'ai pas vraiment un point de vue spécial sur ça, mais bon, je dis, ils savent que le Congo attend plus que ça. Et donc... Voilà, c'est mon opinion.
Alors, nous tendons, il nous reste moins de 3 minutes pour mettre fin à cette émission. Je vais vous demander de conclure, professeur Arsène Mweka. Prenons la déclaration de Kampala. Faut-il y croire ou pas? Cette déclaration pourrait avoir un impact positif ou négatif?
Je suis très pessimiste puisque je crois avoir bien étudié la politique et je retiens que depuis l'Antiquité, des siècles, un État, ça se garde par des formules connues. Nous n'allons pas inventer et garder le pays par des communiqués. Je demande au gouvernement de s'assumer, de réorganiser l'armée, de se prendre au sérieux et de ne pas continuer à ajouter les années, parce que maintenant, ça fait 11 qui n'arrivent même pas à organiser une petite milice.
Merci, professeur Arsène Mweka. Professeur Boendoua, ça sera aussi votre conclusion. L'impact de cette déclaration de Kampala.
Oui, je pense que j'irai dans le sens que bien annoncé le conseil du chef de l'État. En ajoutant ceci, tout simplement que nous autres Congolais, nous allons essayer de cheminer vers l'idéal en tenant compte du réel. Et le réel de notre pays est inscrit dans sa géographie qui nous demande de coopérer, de s'ouvrir, d'être fort, et mais aussi comprendre que les autres sont là et que nous sommes tous des humains, comme disait Nyerere. Binadamu, Nisawa, na African Moja.
Merci, professeur Jean-Pierre Kambila. Conclusion.
Écoutez, tout à l'heure, mon voisin, le professeur Mweka, a souligné son origine du Nord Kivu. Je ne suis pas du Nord Kivu, mais je suis congolais. Ce qui se passe au Nord Kivu m'intéresse énormément, me fait souffrir. Alors, je ne parle pas le Swahili, mais j'aimerais, dans un très mauvais Swahili, donner un tout petit message à mes compatriotes. En leur disant, « Udungu yiyi ina babuzenu ». Babu Zetu.
Traduction.
Tushikane Mikono Kwaku Ikinga. Cette terre-là est notre terre. Et leur terre, nous nous battrons pour ça. Ceci dit, merci. En restant ouverts, en nous faisant confiance
merci
les uns les autres.
Merci Jean-Pierre Kambila, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe. Toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à préparer et réaliser cette émission. Guy Mati, Samuel Kachak sous la supervision de Ben Kabamba. La technique était assurée par Alain Goy au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Rediffusion demain 4h15, heure de Kinshasa. Bonne suite de programme sous la fréquence de la paix.